Les deux orphelines, quatrième partie, chapitre 18. Entraînée au milieu de ses compagnes d'infortune, Marianne était arrivée sur le pont, portée pour ainsi dire, et sans pouvoir se dégager du groupe pressé qui s'écrasait pour sortir de l'écoutille. Redevenue libre de ses mouvements, la courageuse créature ne s'abandonna pas comme les autres au désespoir. Il ne s'agissait plus maintenant de donner le change aux prisonnières et de gagner du temps. Il fallait empêcher qu'elles courussent à une mort certaine en essayant de pénétrer dans les embarcations. Lorsqu'elle se présenta devant ces malheureuses en proie au plus violent désespoir, elle fut accueillie par des vociférations et des menaces. Elle l'accusait toutes de les avoir trompées par de fallacieuses paroles alors que le navire était en feu. Calme, devant ce débordement de fureur, comme elle l'avait été dans la salle de l'entrepont, elle éleva la voix pour dominer le tumulte. Mais à ce moment, un immense cri jaillit de toutes les poitrines. Une gerbe de feu crevant le pont lançait vers le ciel des millions d'étincelles au milieu d'une épaisse colonne de fumée. Le crépuscule touchait à sa fin. Les lueurs de l'incendie éclairaient fantastiquement cette scène d'horreur. Tout à coup, la flamme atteignit le petit hunier qui flamba comme une gaze, communiquant le feu au mât de misaine. Les cordages brûlés, le mât vacilla un instant, puis s'abattit sur un débordage. Aussitôt, une terrible exclamation retentit, poussée par les matelots qui venaient par miracle d'échapper à la mort. En un clin d'œil, les voiles furent dévorées par le feu. Alors, une équipe se forma pour jeter à la mer le mât devenu une épave enflammée. Le grand mât, n'étant plus retenu par les cordages, menaçait lui aussi de s'abattre. Un long craquement se fit entendre. Le porte-voix aux lèvres, le lieutenant Douvel commanda « Pars à carguer le grand hunier !» Cette manœuvre avait pour but d'empêcher la chute du mât en évitant de donner prise au vent. Aussitôt, quelques matelots de quart s'élancèrent afin d'exécuter l'ordre du commandant. On les vit se hisser sur la grande hune pour carguer la voile au risque d'être entraînés dans la chute du mât. Pendant ce temps, le lieutenant donnait l'ordre qu'on carguât les autres voiles. Et le mât, débarrassé de sa toile, continua à osciller sur sa base. Mais à partir de ce moment, on pouvait arriver, sinon à empêcher, du moins à diriger la chute. Ces événements avaient pour un instant fait diversion à la terreur des prisonnières. Mais l'instinct irraisonné de la conservation reprit bientôt le dessus. Elles allaient tenter de nouveau l'envahissement des barques lorsqu'une formidable clameur vint les clouer sur place. La cause de ces cris était une recrudescence de l'incendie qui, maintenant maître des œuvres vives du navire, faisait rage sur le malheureux brick. Les flammes avaient complètement envahi le gaillard d'avant. De la poupe au grand mât, ce n'était plus qu'une fournaise du milieu de laquelle jaillissaient des colonnes de fumée noire alimentées par les essences, le goudron et les cordages empilés. Et ces flammes marchaient avec rapidité, dévorant tout sur leur passage, en menaçant d'atteindre la partie du navire jusque-là préservée. Des flamèches en gerbe pétillante étaient projetées sur la dunette, couvrant l'arrière du navire d'une pluie d'étincelles et de tisons qui ne pouvait tarder à embraser tout ce qui restait intact du malheureux bâtiment. À partir de ce moment, rien ne put plus contenir la terreur, l'épouvante, les cris des passagères. Les matelots eux-mêmes semblaient prêts d'être pris de panique et attendaient, frémissants, l'ordre de procéder à l'embarquement. Devant les flammes envahissantes, tous battaient en retraite vers les trois embarcations qui se trouvaient à l'arrière, suspendues au palans. Le feu avait marché avec tant de rapidité qu'il ne restait plus que tout juste le temps nécessaire pour évacuer le navire. M. Douvel emboucha son porte-voix. Mais à peine eut-il formulé le commandement, à peine les poulies des palans eurent-elles crié sous l'effort des mains tirant les cordages, qu'une vigoureuse poussée amena toutes les femmes contre le bordage que les plus affolées se mirent à escalader pour sauter dans les canots. Tout à coup, tandis que les officiers faisaient rétrograder ces malheureuses, le brick eut un mouvement de violente oscillation. Le bordage baissait avec rapidité. À la lueur des flammes, on pouvait voir que les vagues, dans leurs majestueuses ondulations, montaient de plus en plus, comme si elles eussent été sur le point de déferler sur le pont du navire. Une seconde catastrophe venait se joindre à la première. Le navire, attaqué par le feu, faisait eau maintenant et s'engloutissait dans les flots. « Nous coulons !» hurlèrent plusieurs voix. Le lieutenant Douvel eut un moment de terrible angoisse. En bouchant le porte-voix, il commanda de faire embarquer les passagères d'abord. Alors, avec la rage du désespoir, toutes se précipitèrent vers les embarcations. Il était temps. Les flammes semblaient les suivre et les gagner de vitesse. Et le navire s'enfonçait toujours. « Au large !» criaient les officiers et matelots devant l'envahissement qui menaçait de faire chavirer les canots. Le commandant avait ordonné que les femmes fussent réparties en nombre égal, avec 8 hommes d'équipage, dans chacun des 2 grands canots. 2 officiers devaient prendre le commandement de ces équipes. Le reste de l'équipage, le commandant et le médecin-major, devaient, avec le quartier-maître, prendre place dans la 3e embarcation. À la hâte, au commencement de l'incendie et en prévision de l'abandon du navire, on avait placé dans chaque embarcation des vivres, des provisions d'eau et les papiers du bord. Les officiers avaient pris avec eux les instruments de marine, boussole, sextant. L'embarquement se précipitait autant que possible. Le feu gagnait toujours et toujours le navire s'enfonçait de plus en plus. Tout à coup, comme le commandant, après avoir fait l'appel, se disposait, lui le dernier, à quitter son bâtiment, une voix cria « Et le quartier-maître ?» Alors, de toutes les poitrines, partit un même appel. Tout l'équipage voulait remonter à bord pour chercher celui qu'on ne pouvait abandonner au milieu des flammes sur un navire qui coulait à pic. Le lieutenant les arrêta d'un geste. « C'est à moi de sortir d'ici le dernier » s'écria-t-il. « Et je ne quitterai mon bord que lorsque le quartier-maître aura pris sa place parmi vous. » Et d'une voix de stentor, il appela le sous-officier. Les matelots tenaient les cordes, prêts à pousser au large. Ce fut un moment de suprême attente que celui qui suivit. Les flammes avaient enveloppé le navire. La fumée aveuglante s'abattait sur la mer, suffoquant tous ceux qui se trouvaient à proximité du brasier. Les vagues se succédaient avec rapidité, et les canots soulevés venaient donner contre le bordage du brick, menaçant de se briser à chaque coup de mer. Le lieutenant Douvel courait à travers l'incendie. Des embarcations, on pouvait voir sa silhouette se dessiner en noir dans la clarté des flammes. On l'entendait appeler, appeler sans cesse le sous-officier. Soudain, à côté du commandant, apparut un homme, les vêtements en feu, les cheveux brûlés, les bras levés, brandissant une hache d'abordage. C'était le quartier-maître. Lorsque les matelots l'eurent vu et reconnu, un immense cri retentit. « À la mer ! À la mer !» Mais déjà le lieutenant Douvel avait saisi à bras le corps le malheureux dont les chairs allaient être atteintes par le feu qui consumait ses vêtements. Il l'entraîna vers le bordage, et les 2 corps disparurent dans un jaillissement d'écume. Le quartier-maître était sauvé. Un des canots rama au-devant des 2 nageurs qui venaient de remonter sur l'eau. On les saisit et ils furent embarqués. À peine ce sauvetage était-il opéré que le lieutenant commandait « Pousse au large !» Alors le quartier-maître jeta un dernier regard à son cher bâtiment. « Adieu » cria-t-il en tendant les 2 bras vers le brick qui n'était plus qu'une épave enflammée. « Adieu, c'est moi qui ai porté la hache dans ton flanc, mon vieux brick. Pardon, pardon et adieu. » Et brisé par l'émotion et la douleur, le vieux loup de mer s'affaissa dans le canot en sanglotant comme un enfant. Mais aussitôt, le lieutenant lui saisit le bras et prononça ces mots. « C'est toi, mon vieux maître, qui nous a tous préservés de la mort. Sans toi, qui a, je le sais maintenant, pénétré dans la soute pour noyer le dernier baril de poudre en s'abordant le brick, l'explosion avait lieu. » À ces mots, une immense exclamation couvrit la voix du commandant. Et tout l'équipage cria par 3 fois « Vive le quartier-maître !» La nuit était venue. Au ciel, des myriades d'étoiles scintillaient. Sur la mer immense, les vagues ondulaient à perte de vue, se frangeant d'écume blanche, éblouissante aux rayons de la lune. Le brick, le glorieux, présentait l'aspect d'un cratère qui se serait ouvert au milieu des flots pour lancer au ciel une flamme fantastique. Peu à peu, cette flamme diminua de hauteur. Puis, avant de s'éteindre, elle projeta une sinistre lueur tout autour d'elle. Et dans ce rayonnement rouge, qui sembla avoir, pendant quelques minutes, ensanglanté les flots écumeux, les 3 embarcations ramèrent silencieusement dans l'immensité. Cette navigation des naufragés commença dans des conditions de courage et d'ardeur. L'équipage tout entier, depuis le commandant jusqu'au dernier des matelots, avait conscience d'avoir fait son devoir jusqu'au bout, pendant l'épouvantable épreuve que l'on venait de traverser. L'unique espoir que l'on put conserver maintenant était de rencontrer quelques navires. Mais ce passage de Terre-Neuve aux Bermudes est heureusement le plus fréquenté de tout l'océan Atlantique. Quant à prendre terre quelque part, il n'y fallait pas songer. On était, selon toute probabilité, à une trop grande distance des côtes, et les provisions dont on disposait ne pouvaient durer assez longtemps. L'eau surtout, dont on n'avait pu embarquer que quelques barils, pouvait manquer au bout de quelques jours. Après les horreurs de l'incendie, les malheureux naufragés étaient exposés, comme on le voit, aux souffrances de la faim et de la soif, s'ils n'avaient pas, avant peu, la chance d'être recueillis par un navire de passage. Il fut décidé, dans un conseil tenu par les officiers qui commandaient les trois embarcations, que l'on naviguerait de conserve autant que possible, et pour ne pas être séparés pendant la nuit, les chaloupes furent amarrées les unes aux autres par des cordes. En tête se trouvait le canot dont le lieutenant Douvel avait pris le commandement, et que montaient 8 hommes d'équipage et 10 de femmes, parmi lesquelles se trouvait Marianne. Le quartier-maître était passé sur l'embarcation, commandée par l'enseigne de Pierre. L'aspirant tenait la barre de la 3e chaloupe qui se trouvait à l'arrière-garde. Cette façon de naviguer avait cet avantage qu'on ne pouvait, à moins d'un gros temps qui eût démonté la mer, être séparé, et que le navire qui apparaîtrait sauverait tout le monde à la fois. La nuit était calme. L'espérance gonflait la poitrine de tous ces hommes qui avaient vu la mort de si près. La réaction se produisait, bienfaisante, après les effarements et les terreurs. On ramait vigoureusement, les matelots se relevant d'heure en heure pour prendre le repos indispensable. Au bout de quelque temps de cette navigation nocturne, le silence s'était fait dans les embarcations. Tous les naufragés se livraient à ce repos de l'esprit qui suit les grandes commotions nerveuses. C'était comme une sorte d'abattement insurmontable qui remplaçait le sommeil auquel ne pouvaient se livrer ces malheureux abandonnés sur la mer dans de frêles embarcations. La chaloupe, commandée par le lieutenant Douvel, tenait ainsi que nous l'avons dit la tête de la petite flottille. Le commandant du Glorieux était à la barre. Seul, peut-être, parmi les naufragés, il se faisait peu d'illusions sur l'issue de cette déplorable aventure. Il voyait le danger dans toute son étendue. Mais il n'eut garde de laisser percer sur son visage ou dans ses paroles la moindre nuance de découragement. De tous ceux qui l'entouraient, Marianne seule était en communion de pensées et de sentiments avec lui. Elle avait laissé les places les moins exposées à ses compagnes effrayées par l'aspect des lames monstrueuses qui s'escaladaient les unes sur les autres, comme si elles eussent dû engloutir l'embarcation, tantôt soulevées à leur cime, tantôt retombant dans l'abîme qui se creusait entre 2 vagues bouillonnantes. Elle n'avait rien perdu de sa froide énergie. Assise auprès du lieutenant, elle subissait, sans s'en émouvoir, les jaillissements des vagues qu'embarquait le canot à chaque coup de mer. Elle semblait rivée à sa place, comme un officier à son banc de car, immobile et impassible devant le danger. Cette nuit si longue arriva à sa fin. Le matin vint rendre un peu d'énergie aux naufragés abattus. D'un canot à l'autre, il y eut échange de conversation entre les équipes. On se félicitait d'avoir échappé miraculeusement à la mort. Puis on procéda dans chacune des chaloupes à la distribution des vivres pour le repas du matin. Ce fut une diversion passagère à cette triste navigation qui, on s'en rendait compte maintenant, menaçait de se prolonger. L'enseigne de Pierre, sur l'ordre du commandant, avait fait le point. Il constatait que l'on avait, pendant la nuit, changé de direction sans s'en apercevoir et que l'on tournait le dos aux Bermudes. Il fallait rectifier la marche, et le découragement se manifesta parmi les matelots qui, seuls, comprenaient toute l'importance de l'erreur commise dans la direction des canots. Cette journée tout entière fut employée à regagner le temps perdu. Les rameurs se mirent avec ardeur à la fatigante besogne de tirer l'aviron par une grosse mer. Le vent avait fraîchi depuis quelques heures. Sous le ciel nuageux, bas, saturé d'électricité, les vagues moutonnaient de plus en plus et devenaient menaçantes. Les marins manifestaient des craintes qui ne devaient être que trop justifiées. Dès le soir, le vent souffla avec violence, rendant la navigation de conserve extrêmement difficile. Il fallait prendre un parti pour éviter les accidents que la fureur des vagues pouvait provoquer d'un moment à l'autre. On tint conseil. L'avis dominant fut qu'on continuerait à tenir les canots amarrés les uns aux autres, tant qu'il n'y aurait pas de péril absolu, que l'on ne couperait les amarres qu'à la dernière extrémité. C'est dans ces conditions qu'on vit arriver la nuit. Depuis longtemps, les femmes, accablées par le mal de mer, n'avaient plus conscience de ce qui se passait. La plupart d'entre elles s'étaient laissées aller comme des masses inertes au fond des embarcations. Les matelots s'excitaient à ramer par les chants monotones des veillées du bord. Le lieutenant Douvel, vivement impressionné, serrait nerveusement la barre, tandis que Marianne gardait le silence, les yeux fixés sur le ciel que rayaient dans le lointain des éclairs se succédant avec rapidité. L'un et l'autre de ces deux naufragés, perdus dans une chaloupe, sur la mer immense, évoquaient en ce moment de lointains souvenirs. L'un et l'autre ressuscitaient le passé pour y retrouver les heures de jeunesse très diversement employées. Pour Marianne, cette méditation empruntait au repentir sincère de l'ancienne maîtresse de Jacques Frochard un caractère d'apaisement. Ses traits étaient empreints d'une calme sérénité. Sur le visage du lieutenant Douvel, au contraire, des rides profondes, creusées sur le front, étaient la preuve évidente que des pensées amères troublaient l'esprit de cet homme, comme si de sourds remords lui fussent venus à cette heure de péril. Ce que les marins avaient redouté se produisit pendant les premières heures de la nuit. Le vent soufflant avec furie, une tempête démonta la mer dont les vagues soulevées en montagnes immenses pouvaient à chaque instant devenir fatales aux embarcations. Déjà, à plusieurs reprises, les canots avaient failli chavirer. Les officiers en avaient référé à leur chef et le lieutenant Douvel, tout en le déplorant amèrement, avait dû donner l'ordre de couper les amarres. L'opération se fit à coups de hache et aussitôt les embarcations furent séparées les unes des autres par d'énormes paquets de mer. Pendant quelque temps, à la lueur des éclairs, on put se voir et juger que l'on suivait la même route. Pour être certain qu'on ne se perdait pas, de quart d'heure en quart d'heure, une voix poussait le cri « Glorieux !» auquel des autres embarcations on répondait « Dieu nous garde !» Ces cris, pendant une nuit d'orage, avaient quelque chose de lugubre. On redoutait cependant de ne plus les entendre, car le tonnerre grondait avec violence. Les sourds roulements ne discontinuaient pas, et la foudre rayait de feu les profondeurs noires du ciel. L'ouragan semblait devoir se déchaîner avec plus de violence encore. Les mugissements de la mer, mêlés aux sifflements sinistres du vent, rendaient toute communication impossible entre les chaloupes. On criait, on continuait à s'appeler de part et d'autre, mais sans obtenir de réponse, sans savoir même si l'on avait été entendu. Et cette cruelle anxiété dura pendant tout le reste de cette nuit, pleine de terreur et d'angoisse. L'ouragan épargna, après d'effroyables assauts, le canot que montaient le lieutenant Douvel et Marianne. Mais au jour, une douloureuse surprise attendait le commandant et les hommes de son équipage. Les deux autres embarcations avaient disparu. Aussi loin que le regard pouvait se porter, on n'en distinguait aucune trace. La tempête avait pris fin, la mer s'était apaisée, et l'on constata qu'à l'horizon, pas une voile ne se montrait. Désormais, la chaloupe se trouvait seule, abandonnée, n'ayant qu'un seul espoir, la rencontre d'un bâtiment qui put prendre les naufragés à son bord. À partir de ce moment, les matelots témoignèrent d'une profonde tristesse. Debout à l'avant du canot, un des matelots consultait l'horizon, cherchant à découvrir la voile dont on attendait l'apparition avec une fiévreuse anxiété. Marianne aussi s'était levée, et ses regards fouillaient le lointain dans toutes les directions. Chez elle, la peur n'avait pas eu de prise, car sa physionomie reflétait la tranquillité, le calme absolu de l'âme. Elle souhaitait l'apparition de quelque navire, bien moins pour elle-même que pour ses compagnes, qui de nouveau se livraient au désespoir. Ces malheureuses pleuraient, se lamentaient, levant les bras au ciel. On eût vainement tenté de leur prêcher désormais l'énergie et la résignation, tout semblait désespéré. Au danger de la mer s'ajoutait maintenant la perspective de la fin hideuse avec toutes les souffrances d'une épouvantable agonie. Encore quelques jours et les provisions allaient manquer. Le baril d'eau était déjà à moitié vide et il fallait songer à mettre les naufragés à la ration. La destinée de tous ces pauvres êtres devait-elle être aussi cruelle que le redoutait le lieutenant Douvel? On put le croire pendant la journée qui suivit la disparition des deux chaloupes qu'on avait perdues de vue. Mais après de terribles heures d'inquiétude et d'angoisse, le matelot en vigie cria « Une voile en vue !» Aussitôt, tous les naufragés se levèrent et les bras tendus vers la voile blanche que le soleil éclairait poussèrent une exclamation de joie, un formidable appel au secours, comme si de ce navire qui passait à plusieurs lieues on ne put entendre ses cris. Alors, Après l'espérance folle qui avait exalté les esprits, vint l'inquiétude qui serra de nouveau tous les cœurs. Comment attirerait-on l'attention de l'équipage du bâtiment en vue? Quels signaux pourrait-on faire qui seraient aperçus de loin? Le lieutenant donna l'ordre qu'on dressât la gaffe d'abordage, au bout de laquelle on placerait un morceau d'étoffe qui servirait à indiquer qu'il y avait là des naufragés à secourir. Aussitôt, Marianne arracha la jupe de sa robe, la coupa par bandes que l'on attacha au fer de la gaffe. Et ce signal de détresse flotta au vent, au milieu des cris de tous les naufragés du canot. Puis l'on attendit, anxieux et redoutant que le navire continuât en route, soit qu'il n'eût pas aperçu le signal, soit que le capitaine demeurât indifférent au sort des malheureux qu'il appelait désespérément à leur secours. On attendit les regards fixés sur cette voile qui paraissait demeurer immobile à l'horizon. Terrible anxiété qui allait bientôt dégénérer en vertige lorsque l'on put voir que le navire virait de bord. Que signifiait cette manœuvre? N'allait-on pas reconnaître avec horreur que la voile s'enfonçait de plus en plus dans l'horizon brumeux? Alors, s'en serait fait de tout espoir? C'était la mort lente, la mort des affamés, les cris déchirants des victimes sur lesquels les hommes affolés, perdant toute conscience et tombé au niveau de la brute, s'acharnerait pour se repaître d'une nourriture hideuse. Et le temps s'écoulait. Les minutes se succédaient longues comme d'interminables heures. Et le soleil baissait, dardant obliquement ses rayons qui faisaient scintiller la mer de mille feux. La voile semblait maintenant enchâssée dans un immense ruissellement de pierreries. C'était, devant ce sublime spectacle, que les naufragés se désolaient comme des réprouvés attendant le supplice. Encore quelques instants, et les ténèbres succéderaient à cet embrasement du ciel sous les dernières ardeurs du soleil couchant. Encore quelques instants, et il faudrait retomber dans le désespoir sans bornes. Alors, de toutes ces poitrines oppressées, sortit une prière qui monta vers le ciel. Tout à coup, et sans transition, cet appel à la Providence se changea en une exclamation de joie délirante. Le navire arrivait, toute voile dehors, pointant du beau pré sur l'embarcation. On avait du bord aperçu les signaux de détresse. Bientôt, il ne fut plus possible aux naufragés de douter qu'on se portât réellement à leur secours. Un léger nuage de fumée jaillit du flanc du navire. Une détonation sourde se répercuta d'écho en écho. C'était la promesse de la délivrance que des marins envoyaient à des marins. Ce signal, on le comprit à bord de l'embarcation, signifiait qu'on devait ramer au navire. Aussitôt, les matelots redoublèrent d'énergie. Et la chaloupe, vigoureusement enlevée, fendit la lame, laissant derrière elle un long sillon écumeux sur le bleu profond des flots. Debout à l'arrière, le lieutenant Douvel jugeait de la distance qui séparait le navire du canot allant à sa rencontre. Il fallait encore bien des vigoureux efforts pour aborder le bâtiment, qui grossissait cependant à vue d'œil. Un second coup de canon retentit plus fort, comme pour encourager les naufragés. À cette détonation, répondirent les acclamations des femmes qui, agenouillées et se tenant au bordage de l'embarcation, se livraient aux manifestations d'une joie délirante, succédant aux cris déchirants de désespoir et de terreur. Et ces acclamations continuèrent pendant tout le temps que prit le navire à arriver à portée de la voix des naufragés. Alors, les deux capitaines purent causer au moyen du porte-voix. Le lieutenant Douvel dit son nom et celui de son bâtiment naufragé. Aussitôt, le capitaine du bord fit hisser son pavillon, et un cri de bonheur sortit de toutes les lèvres, lorsque les naufragés eurent aperçu, à la corne du bâtiment, venu à leur secours, le pavillon national. C'étaient des Français qui allaient sauver des Français. La corvette, mise en panne pour attendre la chaloupe, qui, faisant force de rame, vint se ranger le long du navire. Le commandant avait fait descendre l'escalier mobile pour permettre aux femmes de monter à bord. Il vint sur la dernière marche attendre le lieutenant Douvel, étendant la main au naufragé. « Dieu soit loué » s'écria-t-il, « de m'avoir envoyé à temps pour vous sauver. » Et le transbordement des naufragés commença aussitôt.